Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour la grande reprise de cette émission 100% foot, une émission dont vous avez pris l'habitude l'année dernière et les saisons précédentes qui évoque toute l'actualité de l'Olympique de Marseille et du football régional. Voilà, pour m'accompagner dans cette nouvelle saison, toujours mes deux acolytes Patrick et Franck. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour à tes côtés, bonjour Thierry.
J'espère bonjour, que vous avez passé de bonnes vacances, un bel été. Et, voilà, il est temps de se replonger dans une nouvelle saison avec l'Olympique de Marseille et de nouvelles aventures pour
une chaleur différente, évidemment.
Cette saison 26-27 qui ouais. Nous met déjà les frissons. Et bon, le moins que l'on puisse dire, c'est que après presque 3 semaines de compétition, on est déjà dans le dur. Voilà, on va attaquer, mais bon, on va d'abord parler un petit peu de Ligue 3, la nouvelle appellation de championnat national. Voilà, avec cette équipe d'Aubagne-Herbelle qui a démarré son championnat déjà depuis un mois, puisque ce week-end, on jouait la 5e journée de ce championnat de Ligue 3 et... Une équipe d'Aubagne-Herbelle qui est dans le dur aussi, comme l'Olympique de Marseille, avec seulement une victoire au compteur et ce week-end un déplacement en Ile-de-France sur les terres du Paris 13 Atlético avec un match nul vierge 0-0. Franck, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre et de ses premiers pas dans cette Ligue 3 pour les joueurs de Karim Masmoudi?
Oui. Après cette 5e journée, bien évidemment, se satisfaire d'une victoire, d'un nul et de 3 défaites, ça reste tout à fait improbable. Bon, il est vrai que bon, ça n'a rien à voir à cela. On a une nouvelle recrue qui est arrivée donc au SCAB. Il s'agit d'Ali Amada,
voilà. L'ancien gardien du TFC, qui s'entraînait depuis plusieurs semaines et qui a signé jusqu'à la fin de la saison avec cette équipe de Aubagne-Herbelle.
Étant libre, ils ont pu l'enrôler. Bon, maintenant, il va falloir un petit peu se reprendre dès le match prochain où Aubagne-Herbelle recevra Concarneau. Il s'agit du 12 septembre à 14h45 pour l'horaire. Ouais. Voilà, chez nous.
Une rencontre qui aura lieu au stade
De Lattre.
Au stade de Lattre, oui. Voilà, au Bagne.
Sur ce qu'on peut voir, puisque maintenant, le National, ils sont sur Ligue 1 Plus, la chaîne de la Ligue.
On va prendre la véritable appellation qui est Ligue 3.
Ouais. Ligue 3.
La Ligue 3.
L'équipe du SCAB, elle n'a pas pu recruter parce qu'ils n'ont pas de fric.
Il est vrai.
Ça me rappelle une autre équipe, d'ailleurs.
C'est un peu le cas de la plupart des clubs,
voilà.
Quel que soit l'échelon. Hein.
Voilà. Et disons que l'année dernière, ils avaient eu 2-3 joueurs en prêt qui avaient fait du bien. Oui. De Nantes, le Saint-Etienne, des futurs pros, quoi, des jeunes.
Qui ont dû repartir, malheureusement.
Qui ont dû repartir. Oui. Et du coup, tu te retrouves avec un groupe qui a mal commencé. Là, quand même, ça fait... Ils ont eu leur première victoire à la 4e journée, puis un match nul à l'extérieur qui est toujours un assez bon résultat. Oui. Par contre, moi, pour avoir vu les matchs, enfin, pas tous, j'en ai vu 3 en tout, c'est faiblard. C'est-à-dire qu'il te manque le joueur qui fait la différence, qui crée les trucs.
C'est évident. J'ai eu l'occasion d'aller les voir face à Bastia à domicile.
Ah oui.
Et il y a eu deux défaites lors des 2 premières journées sur des rencontres qui avaient lieu à domicile.
À domicile, voilà. Ils étaient visiblement pas prêts. Mmh. Et du coup, bon, ben, alors c'est un petit retard à l'allumage. Mais ça va être une saison compliquée parce que tu as un groupe qui est faible et il compte sur les jeunes d'Herbelle pour sortir, mais c'est des gamins de 17 ans. Parce que le championnat de 3e division, il est quand même.
C'est quand même un groupe assez limité, restreint.
Oui, restreint. Et en plus, en face, moi, sur ce que j'ai vu, c'est pas des foudres de guerre. Hein. Quand hier, je regardais la Ligue des Champions là, sur Canal, c'est un autre monde.
Et à titre comparatif,
la Ligue des Champions, c'est la compétition européenne, ce qui se fait de mieux.
Ce qui se fait de mieux au monde. Donc, disons que
difficile d'établir la comparaison
sur
la Ligue 3.
C'est costaud. C'est-à-dire, les mecs, c'est des costauds. C'est des joueurs qui ont pas pu passer pro au niveau et tout. Mais c'est quand même des mecs costauds,
expérimentés. Il y a des bonnes équipes avec voilà. Des effectifs qui...
C'est bien structuré. Moi, ce qui m'a surpris, tu parlais du match contre Bastia, c'est que Bastia, c'est un club de Ligue 2 de l'année dernière. Mmh. C'est que c'est hyper structuré. Dire que tactiquement, c'est costaud.
J'ai vu la différence
qui était cliente. C'est un club qui a eu le statut professionnel et qui a évolué parmi l'élite du football français il y a certes quelques années, mais bon, ils ont traversé une mauvaise période. Voilà. Mais bon.
Et parce qu'ils ont des problèmes financiers un peu comme tout le monde. Oui, mais tu sens quand même dans la structure de l'équipe, dans l'organisation, le staff, que c'est pro. Et toi, tu as plein de petits jeunes qui débarquent, tu as des mecs, c'est limité. Pour ça qu'Amada va peut-être leur faire du bien par l'expérience qu'il va amener, quoi. Mmh. International comorien, ancien joueur de Ligue 1.
Oui, oui.
Mais là, il se reconvertit comme entraîneur de gardien et tout, puisqu'il est entraîneur des espoirs
Un joueur qui a 35 ans.
Hein. Oui, 35-36. Donc, il est encore de la génération. Il peut encore parler. Il n'est pas largué.
Mais c'est vrai que pour encadrer, pour structurer un petit peu tout ce groupe d'Aubagne Herbel, qui est relativement jeune,
il peut rendre de bons services.
Le partage d'expérience, évidemment, est indispensable. On parle encore, évidemment, des jeunes du SCAB qui ont intégré cet effectif.
Voilà. Et donc, disons que ça va être une saison compliquée, mais le groupe a l'air relativement sain. Après, il te manque peut-être un ou deux joueurs de talent, comme on a eu Benatab, tout ça, à une époque, au SCAB, qui te fait, sur une action, la différence, te fait marquer un but.
J'ai noté, évidemment, un manque criant. Au niveau offensif, ça reste relativement moyen, pour ne pas dire plus.
Voilà, ouais, c'est un peu... Il n'y a pas un ou deux joueurs qui te fait des brèches, qui sortent du lot. Mais bon, peut-être ils recruteront un Jambier aussi, c'est possible.
Préparatoire de Mazmoudi était évidemment important. J'espère que ça va apporter ses fruits prochainement.
Voilà, on va le leur souhaiter en tout cas.
D'accord. Bon, prochain rendez-vous donc pour cette équipe du stade, ce sera la réception de Concarneau, comme tu l'as dit, Franck, au stade de l'Âtre, ce samedi à 14h45. Oui. On verra, on souhaite bonne chance à cette équipe du stade pour cette rencontre et pour la suite de la saison. Voilà, on va enchaîner avec nos filles, les Marseillaises, qui démarraient leur championnat avec beaucoup d'ambition et nouvel entraîneur qui arrive dans les Bouches-du-Rhône et en terre provençale avec une belle réputation, puisque on parle ni plus ni moins de l'entraîneur du FC Nantes, Nicolas Chabot, qui a réalisé une très belle saison en 25-26 avec les filles du FC Nantes.
Il a été consacré meilleur entraîneur de la
de l'Arkema Première Ligue. Un entraîneur qui a été primé la saison dernière et qui vient avec beaucoup d'ambition et un groupe bien renforcé aussi pour à l'entame de cette nouvelle saison.
Voilà, si je peux souligner cela, tu as tout à fait raison, Thierry. Il y a 16 départs.
Un petit point sur le mercato, si tu le veux bien.
Si tu veux, il est clair que là, on est passé à une autre ligne avec des ambitions nouvelles, où on mise évidemment sur la 8e, 9e place, non pas le ventre mou, mais le milieu de tableau, je peux parler de quelques joueuses qui rejoignent notre effectif, dont Marine Cosson, Rui Rodriguez, Louise Fleury, Emily Burns, la gardienne, toutes connues à Nantes par Nicolas Chabot.
Pas mal de joueuses qui ont suivi leur entraîneur dans les Bouches-du-Rhône du côté de l'OM.
Qu'on peut féliciter pour leur quatrième place de l'année passée. Voilà.
Quatrième, il faut savoir qu'il y a les deux Parisiens, PFC et PSG, et il y a les Lyonnaises qui sont hors concours. Ça veut dire que c'était la meilleure équipe du championnat normal.
Merci de terminer juste rapidement de Maël Garbineau, ex-Paris FC, justement, qui rejoint notre effectif. Ouais. Maël Garbineau, c'est cela, avec Julie Thibault, qui vient de l'Aister, qui est une très bonne joueuse, en tout cas de réputation, je n'en doute pas. Claire Lavaugier, qui vient du Real Sociedad. Sonia Houchen, de Montpellier, qu'on connaît également. Thabo Ouagodo, qui vient d'Aix-Mimosa. Des joueuses expérimentées et prometteuses. Nous attendons évidemment de belles choses de leur part.
Voilà.
Et ça a bien démarré avec une victoire à domicile ce samedi soir au Stade Francis Turquin contre cette équipe du Havre Athletic Club.
Et il y avait eu deux victoires
en match de prépa.
En Ligue, en, oui, qu'on appelle ça la Coupe de la Ligue.
La Coupe de la Ligue, voilà.
Voilà. Qui n'est pas la Coupe de France, oui. Qui est la Coupe de la Ligue.
Qui est une compétition différente.
Voilà. Et ils ont gagné les deux premiers matchs, voilà. Donc c'est plutôt positif. C'est vrai que c'est un entraîneur qui est revenu avec son staff et qui a amené plusieurs filles qui jouent avec lui à Nantes. Mmh. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'amalgame, tu devrais à peu près bien se passer.
Oh que oui.
Donc, alors, pas question de jouer le titre, hein, mais jouer la première moitié de tableau, un maintien tranquille et peut-être faire un coup en coupe, on verra. Hein.
Voilà, des ambitions légitimes, évidemment. Voilà.
C'est vrai que malheureusement, la saison dernière a été compliquée pour les Marseillaises. Et puis bon, cette fin de saison, sous les ordres de Corinne Diacre, qui a décidé de jeter l'éponge...
qui attendait certainement des renforts, comme c'est le cas avec Nicolas Chabot, ce qui n'a pas été le cas avec elle.
Voilà. Mais bon, ben, voilà. Donc, pour l'instant, ça a bien démarré. Et ce week-end, il y a un nouveau rendez-vous, toujours à Francis-sur-Cam, la réception des Lensoises. Oui. Voilà, cette équipe sans et hors du Racing Club de Lens qui viendra pour le compte de la deuxième journée, donc dans la Venise provençale pour défier nos Marseillaises. Voilà.
Donc voilà, allez toutes et tous à Turquand pour les encourager. Voilà, elles le méritent bien.
On espère que le public se déplacera dans ce stade Francis-sur-Caen sur les bords de la Venise provençale. Voilà, on a fait le tour concernant la Ligue 3 et l'Arkema Première Ligue. On va attaquer le gros morceau et l'Olympique de Marseille et la Ligue 1. Voilà, avec cette troisième journée et la réception du PFC ce dimanche au CEPA de Vélodrome, puisque maintenant, avec
le
naming,
c'est
plus l'Orange. Le
Vélodrome, c'est le CEPAC.
Fait gagner quelques petits millions qui ne servent pas à grand-chose, du coup.
Voilà. Oui, mais enfin, c'est bon. C'est un contrat longue durée, c'est bien. Orange ne voulait pas renouveler. Évidemment. Bon, mais voilà, as trouvé quelqu'un qui paye un peu plus en plus, donc c'est très bien. Oui, et donc on a commencé...
Déjà, un petit mot sur cette intersaison-là, puisqu'on a pas eu l'occasion d'évoquer le début de saison et ces deux premiers matchs avec une victoire au Vélodrome contre le Racing Club de Strasbourg. Une belle victoire 4-0, mais bon, derrière cette défaite en principauté au Stade Louis II face à l'AS Monaco 2-0.
Oui, c'est vrai que ce démarrage était tonitruant. Il ne fallait pas non plus imaginer que cela allait être l'accoutumée après ce premier match. En l'occurrence, on a bien vu sur les deux matchs suivants.
Voilà. Après, Patrick, au vu du calendrier, est-ce qu'on pouvait espérer mieux après trois journées en sachant que le championnat fera une coupure de trois semaines là, dans un peu plus de 10 jours
Après le match contre PSG.
Il y a une trêve internationale de 3 semaines avec le début de la Ligue des Nations.
Oui, parce qu'on rappelle que maintenant, avant, c'était 2 trêves avant Noël où tu avais 2 matchs internationaux. Maintenant, ils font des trêves plus longues avec 3 ou 4 matchs.
Et là, on est sur une période post-Coupe du Monde aussi,
voilà,
puisque le championnat a repris un mois après cette fin de Coupe du Monde en Amérique du Nord.
Alors, moi, ce qui me frappe actuellement et qui me pose question, c'est les erreurs de communication.
De la direction.
De la part de la direction de l'OM.
Il faut préciser bien les choses.
En particulier de Frank McCourt lui-même.
Le propriétaire du club.
C'est en partie pas sa faute parce que c'est un Américain qui vit à Boston, qui donc n'est rarement là et qui fonctionne à l'américaine. C'est-à-dire que quand le mec, au printemps, au mois d'avril,
c'est un actionnaire qui gère à distance et qui délègue auprès de ses collaborateurs.
Je dis ça par rapport à la banderole de mon virage, c'est-à-dire des ultras. Voilà. Qui était un peu... Ils n'ont pas bien compris.
Je m'inscris un faux contre cela.
Si tu peux, déjà, rappelle-nous
la banderole était...
Le tenant du message que
au mois d'avril,
que les ultras ont voulu faire passer.
McCourt avait dit au mois d'avril que l'OM était un des clubs les plus sains de France, les plus solides et tout, parce que lui, dans son esprit, il est l'actionnaire On s'est retrouvé après une gestion catastrophique du duo Longoria-Bennassian.
Cette déclaration, elle date lors de la présentation de Stéphane Richard.
Le nouveau président, voilà. Quand donc Longoria est parti et tout. On s'est retrouvé avec un déficit de 147 millions d'euros sur la saison 2025-2026.
La saison qui vient de s'écouler.
Et lui, il a mis 120 millions de sa poche pour cautionner le club au niveau de la DNCG. Donc il a quand même mis 120 millions, c'est pas moi qui les ai mis, malheureusement je les ai pas, je pense que nos auditeurs ils les ont pas plus que moi. Donc voilà, et donc quand il dit le club
si les supporters
saine,
étaient prêts à faire un effort, voilà, sur le plan financier,
oui,
pour aider le club,
agréable. Et lui il dit on est solide parce que lui il parle du sport américain. Quand tu passes devant les commissions de contrôle, s'il y a un déficit, tu mets les ronds. Voilà. Ouais. C'est ce qu'il a fait.
Si le conseil a déjà un antécédent avec le club des Dodgers, la franchise
aux États-Unis où il a mis
baseball.
Il a mis l'argent et bon, après il gagnait pas, mais il mettait l'argent et il assurait le maintien. Donc c'est là que ce que lui a voulu dire, mais ils auraient dû expliquer. C'est-à-dire que le club avait 147 millions, donc la DNCG et l'UEFA, parce qu'il a été sanctionné
aussi les instances européennes, hein.
Avec une grosse amende et une sanction, une menace de sanction. En fait, ils t'ont sanctionné parce que la précédente direction s'était engagée à contrôler les finances et à éviter les déficits. Ça faisait 3-4 ans depuis le départ de Jacques-Henri Hérault.
Ce qui n'a pas été le cas bien avant.
Voilà, je ne regrette pas Jacques-Henri Hérault qui était loin de là, dans son monde. Voilà.
Tu n'es pas le seul, cher ami.
À mon avis, au Vélodrome, il n'y a pas une personne qui le regrette.
Mais c'est pas un dirigeant qui a marqué les esprits.
En tant que gestionnaire, il était rigoureux.
Parlons de l'intronisation de Richard, justement.
Voilà, alors, quand sont arrivés ses successeurs, Tu as marché à crédit, tu as acheté avec beaucoup. Cette année, il faut savoir qu'au 1er juin, tu devais sortir 40 millions d'options d'achat obligatoires pour Medina, Ahmed Traoré Junior, Timothy Weah, et je sais plus qui était le quatrième joueur. Enfin, il n'y en avait que trois. Tu avais 40 millions à sortir. Option d'achat obligatoire. C'est-à-dire que même si le mec, il s'est cassé une jambe, tu payes.
Mais en l'occurrence, cela ne suffit pas.
Et c'est ce qui explique les 147 millions de déficit. Voilà. Et donc, l'UEFA et la DNCG,
la Direction nationale de contrôle de gestion, le gendarme financier français qui contrôle
dit,
tous les clubs.
Vous devez vendre pour 100 millions, vous devez diminuer votre masse salariale si possible de 50%, parce que tu as signé des contrats. Ce qui choque, moi je parle de ce que j'entends avec les copains dans les virages, c'est Kondogbia qui est blessé un match sur deux à 450 000 euros par mois.
C'est vrai que le salaire de Geoffrey Kondogbia fait beaucoup parler.
Ah oui,
ces derniers temps.
Autant quand c'est Greenwood qui touche 450, tu regardes les matchs, tu dis je sais pourquoi il les touche.
Et vu le temps qu'il a passé, du moins à l'infirmerie la saison dernière.
Et cette année, deuxième match, il se claque contre Monaco.
Il a fait toute la préparation, il a démarré le championnat, mais malheureusement, le match au Stade Louis II face à l'AS Monaco lui a été fatal.
Il se claque à la 60 et quelques minutes. Et donc, si tu veux, tu as des questions sur mais comment tu as recruté, comment tu fais les options d'achat obligatoires et les trucs. C'est un moyen de payer à retard, quoi, à crédit. Et du coup, tu t'es retrouvé que les mecs qui t'ont sanctionné, si tu vendais pas et que tu baissais pas la masse, tu pouvais pas recruter. Interdiction de recrutement.
L'effort a été fait en ce sens.
Et tu étais sous contrôle, c'est-à-dire que pour tout achat, il fallait l'autorisation de la DNCG.
À partir du moment où la masse salariale est encadrée.
Voilà, donc tu étais obligé. Ce qui fait que là où il y a eu un problème de com, je le redis, mais c'était compliqué à dire, je reconnais, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de recrues n'est pas surprenant. Parce qu'il fallait que tu puisses vendre le maximum de joueurs avec des gros salaires et des joueurs qui te rapportent des ronds, sauf que étant sanctionné par la DNCG en France, étant sanctionné par l'UEFA en Europe, et c'est marqué dans l'équipe, c'est marqué dans tous les...
Oui, il y a tous les médias qui ont rapporté.
Radio Monte Carlo, ils t'ont fait des heures là-dessus. Tout le monde le sait. Donc, les clubs en face, ils viennent, ils te disent... il y a un club qui a voulu acheter à Guerre, d'y proposer 8 millions d'euros. Tu l'as acheté 23.
Ils étaient
au courant.
Ils étaient au courant. Donc, vraiment, ils... il pouvait disposer de toutes les informations qui avaient été rapportées sur la situation économique du club.
Voilà, et on l'a vu avec Greenwood, qui pourtant est un joueur intéressant. Comme le marché anglais est fermé pour lui pour ses problèmes extra-sportifs, les clubs, ils te proposaient le minimum, quoi. Il a fallu gratter pour avoir 40 millions de Fenerbahçe.
Et la seule opportunité qui s'est présentée, voilà, ça a été le marché turc avec ce départ du côté du Fenerbahçe d'Istanbul.
Oui, pour 40, quoi. Alors que...
Il va nous en rester guère.
Voilà, parce que tu devais donner une partie à
Manchester. Il y a beaucoup de supporters
qui
s'insurgent parce qu'ils se disent que...
On a mal vendu, mais c'est...
Il a été mal vendu et que le montant était relativement faible par rapport aux qualités
et
au niveau du joueur.
À une époque, il était en contact avec la Roma qui voulait l'acheter. La Roma qui, elle aussi, est sous contrôle.
Est en proie à des difficultés financières.
Est sous contrôle financier de l'UEFA et tout.
Ils ont récupéré Berardi quand même.
Et pourtant, on parle d'un grand club italien qui joue la Ligue des Champions.
Eh oui. Et en plus, attends, tu disais, Franck, ils t'ont récupéré Berardi. C'est un prêt avec option d'achat.
En effet.
Ils ont payé 3 millions. Et tu as 13 millions d'options d'achat. S'ils le prennent en juin.
La situation financière des clubs italiens n'est pas celle de la première ligue et des Anglais. Donc,
si
toute proportion gardée, on ne va pas faire le comparatif.
Si tu lèves la première ligue, tout le monde est un peu en difficulté,
oui, en Italie,
même en Espagne.
Conditions confortables,
voilà.
Évidemment.
Ouais. Et donc, pour revenir à l'OM et aux erreurs de communication, on n'a pas dit ce qui, moi, me paraissait relativement risqué, c'est-à-dire que tu risquais de ne pas avoir de recrues, ou alors de prendre un ou deux mecs libres, c'est-à-dire mec libre qui vient chez toi, c'est qu'il n'a pas trouvé mieux, plus cher en Angleterre, donc ça, il n'y en a pas beaucoup, et que tu devais vendre, mais que les mecs sachant, c'est ce qui est arrivé à Lyon sur Malik Fofana. Et encore, c'était le dernier jour, donc ils sont arrivés à gratter.
Il y a eu un panic. Voilà. Bon, après, ce qui a entraîné le départ de Malik Fofana, je pense qu'aussi c'est la non-qualification de l'OL pour la phase régulière de Ligue des Champions.
Ils attendaient, ils se qualifiaient, ils auraient essayé de le garder, ils sont éliminés. Eux aussi avaient des obligations de la DNCG, ils sont obligés de vendre. Mais tu vois que le mec, il part pour 40 alors qu'il était estimé à 50-60. C'est-à-dire que les mecs savent que tu es à l'agonie, ils te mettent le minimum.
Oui, Patrick, mais pour revenir à ton propos...
Après, il y a la réalité du marché économique.
Ben, justement, le marché...
Ce qui touche je veux dire, le marché anglais, le marché italien, espagnol, et le marché français. Donc...
Oui. Au-delà de l'argent généré, évidemment, les pertes des différents clubs leur met un handicap très fort en ce qui nous concerne. Parlons de communication, Patrick. Il y a différentes communications. Celle d'un actionnaire principal qui communique avec son président et celui qui l'a délégué des pouvoirs. Et puis, parler justement avec les supporters et le public. Voilà une autre communication.
Et l'erreur, elle, à mon avis, elle a été là, de ne pas dire il va falloir vendre. Et donc, qui tu vends? Ce qui est vendable, c'est-à-dire tes bons joueurs. Et comme il faut baisser la masse salariale, les gros salaires.
Les joueurs qui avaient la plus grosse valeur marchande.
Voilà. Mais pensez-vous que les gens sont dupes?
Non, mais
bon, en même temps aussi... Je veux dire, les supporters ne sont pas des financiers ou quoi. Je veux dire,
pas des experts.
Après tout ce qui touche au volet économique,
mais bon.
Je veux dire, après pour
moi hier soir, je regardais Virage Marseille chez nos collègues de BFM où il y avait un mec, mais très gentil, sympa, hein. Voilà. Non, mais un supporter qui disait je comprends pas pourquoi on n'a pas vendu Kondogbia. Parce qu'il a 450 000 par mois.
Et qui va l'acheter?
Il a encore un an de contrat jusqu'à juin 2027. Il va pas s'asseoir dessus. Et il n'y a aucun club qui va te filer des roms pour Kondogbia. Et même si tu le libères, personne ne lui filera 450 000.
Et connaissant la condition physique du joueur.
Voilà, qui est blessé match sur deux. Voilà. Et donc, tu as vendu qui avait une valeur, d'où le départ de Timber qui pour moi me pose problème, c'était un bon joueur.
Quentin Timber qui a quitté l'Olympique de Marseille lors du
dernier jour
du mercato, dans les dernières heures, on sait qu'il avait la volonté de rejoindre son frère qui évolue déjà en Angleterre en première ligue à Arsenal.
Et donc,
que le club londonien de Crystal Palace avec Pierre Sage cette saison aux commandes a fait le forcing pour venir le récupérer.
Mais quand tu regardes merde, Timber, il voulait partir parce que son frère jumeau vit à Londres. Ouais. Donc, il, voilà, ouais. il va
et
aller
il
à
Il avait la volonté de pouvoir y aller, hein, évoluer en première ligue.
Mais le truc, c'est que tu le vends pour 18, plus 2 ou 3 de bonus ouais. éventuels. 18, c'est un mec qui est évalué à 20-22 sur Transfermarkt.
Et on rappelle que c'est un joueur qui est arrivé lors du dernier marché hivernal.
Oui, oui.
Il est arrivé lors du mercato hivernal en janvier.
Voilà. Il avait plus que 6 mois de contrat, donc son club a préféré récupérer 4,5 millions plutôt que de laisser partir
lui. On sait qu'il est arrivé du championnat néerlandais, de Feyenoord.
Feyenoord, voilà.
En même temps, mais il faut se mettre à la place des joueurs concernés. En l'occurrence, on doit, ils veulent se sortir de ce carcan pour la plupart.
Ah oui, oui.
Certains sont restés, mais compliqué à eux de
voilà,
de céder
et
à
et donc,
cela.
Tu as eu beaucoup de retours de prêts, parce que Longoria, il faisait beaucoup de prêts.
Heureusement.
Donc, te reviennent Mopé, Mumbagna, Cornelius, Ulysse Garcia. Tu sais pas ce que tu vas, Harry, Taminari, tu sais pas trop ce que tu vas me faire. Te reviennent des joueurs comme ça. Tu as des joueurs qui ont des gros salaires qui partiront pas. Tu as des joueurs qui veulent partir, mais tu essaies de gratter, mais le club en face, le sachant, tu es obligé de laisser partir, tu n'as pas le choix.
Mais il y a quand même des joueurs qui étaient sur le point de quitter le club. Je pense notamment à Nayef Adir, qui a quasiment pas joué sur la deuxième partie de saison.
On sait
qu'il a été opéré, il a raté la Coupe du Monde avec le Maroc.
Une chose importante,
on parle aussi de Pierre-Emile Højbjerg, capitaine de la sélection danoise, qui n'a pas joué la Coupe du Monde avec sa sélection. Et
là aussi, minime polémique par rapport au brassard de capitaine, etc. Bon, qui a duré ce qu'elle a duré, mais bon. Le truc, c'est qu'il a quand même gardé le cap de rester.
C'est quand même deux trucs différents. À Gerd, moi, à mon avis, la Real Sociedad y connaît, il y avait joué il y a deux ans.
Il a déjà fait un passage il y a quelques années.
Ils étaient d'accord, l'OM était d'accord, tout le monde était d'accord, 18 millions, c'était bon, ça allait.
Des choses importantes.
Il a, semble-t-il, raté la visite médicale.
Et voilà.
Alors, pour un mec qui a
Là, il me semble que j'ai entendu qu'il y avait quand même deux sons de cloche, parce que
du côté
de l'Olympique de Marseille, on n'a pas tout à fait la même version concernant les résultats de la visite médicale que le joueur a passé.
Alors, d'après Nayef Adgerd, lui, il dit, j'étais en désaccord avec l'entraîneur sur le processus de reprise. Parce qu'il sortait d'une opération.
Exactement. On rappelle pour nos auditeurs qu'il a été opéré au mois de mars d'une pubalgie et qu'il a...
Il a dû renoncer à la Coupe du Monde.
Qu'il a contraint à déclarer forfait pour la Coupe du Monde avec le Maroc.
Il n'avait pas pu jouer depuis le mois de mars.
Okay. Voilà.
Donc, je veux bien que tu aies un petit désaccord avec le staff sur la reprise, mais ça fasse capoter un transfert.
De là à faire capoter un transfert, j'ai rarement vu
Et
des situations qui fassent capoter un transfert de la sorte.
C'est un garçon qui, on rappelle, a été blessé fin d'année 2025, puisqu'il a raté la fin de saison. Il s'était arrêté pour jouer la CAN, parce qu'il a joué la CAN. Ouais.
Il a voulu absolument participer à la Coupe d'Afrique, puis il s'est déroulé dans son pays.
Il a joué la Coupe d'Afrique, dont il était capitaine en seconde de l'équipe après Hakimi.
Il était vice-capitaine derrière Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain.
Le problème, c'est qu'il semblerait qu'il ait joué plus ou moins sous infiltration et tout. Depuis, après il est revenu, il a peu joué, il s'est fait opérer pour pouvoir aller à la Coupe du Monde où il n'a pas pu aller. Et donc, très logiquement, le club qui va l'embaucher, il va regarder, ça fait un mec depuis un an, il a très peu joué.
C'est vrai que quand on compte le nombre de minutes jouées en l'espace d'une saison.
Est-ce que c'est qu'ils avaient des doutes sur la reprise, sur les délais,
sur l'état physique du joueur?
Voilà, moi j'ai vu le match dimanche contre le PFC.
On va en parler, puisque je pense que il faut pas passer sous silence la prestation de
Aguerd. Est un joueur de qualité qui a été pas bon,
qui a été très moyen
physiquement. Il y est pas
prêt.
Voilà, ouais. Tu as vu sur certaines actions qu'il était en
retard.
Après,
on va y revenir, puisque Nayef Adir de jouer son premier match en tant que titulaire de la saison. Voilà. Première titularisation depuis 6 mois.
Oui,
peut-être
depuis le
prématuré
mois
pour lui-même, en tout cas.
Voilà, c'est peut-être prématuré parce que il a pas joué en préparation, quasiment pas.
On peut le souligner.
Il est seulement comme un défense central, Thierry Larouille.
C'est un joueur qui relève de blessure et qui n'a eu quasiment aucune préparation.
Voilà, qui n'a pas fait de prépa.
On n'a pas d'autre
et
choix.
Et voilà, et donc tu l'as mis, il n'y avait personne.
Ça a été un choix un peu forcé de la part de Bruno Genesio pour le titulariser
exactement,
face au PFC dimanche.
On a clairement vu contre PFC, sur 2-3 actions, entre autres sur les buts, où il est en retard, mais bien en retard, que le mec, il est pas au top. Voilà. Physiquement, il y est pas. Et donc, est-ce que c'est ça qui a fait que la Real Sociedad, ils ont hésité? Est-ce que c'est, comme il le dit, lui, il s'est engueulé avec l'entraîneur, du coup, il y est pas allé? J'en sais rien, j'y étais pas. Mais ce que je sais, c'est que, du coup, ça s'est pas fait. C'est différent de Højbjerg, qui a pas voulu Newcastle. Mmh. Moi, je pensais que Newcastle, il sauterait dessus, hein, parce que c'est un club intéressant qui a du fric. Mais lui préférait l'Italie, il avait des pistes, le Milan et la Juve.
On a parlé du Milan, de la Juventus et même de l'AS Roma aussi.
Et de l'AS Roma.
Gasperini est un entraîneur qui avait ciblé plus ou moins le capitaine de la sélection danoise.
Aucun des trois n'a pu le recruter. Ah. Et dans la Gazzetta dello Sport, j'ai un copain italien qui la lit tous les jours, il me dit que l'AC Milan attendait de vendre Youssouf Fofana qu'ils ont essayé de prêter.
Malheureusement, le transfert a capoté au dernier moment
en direction de
l'Olympique Lyonnais.
De l'Olympique
Lyonnais. Oui, Youssouf Fofana, l'ancien monégasque qui devait rejoindre l'Olympique Lyonnais.
Il était à Lyon pour la visite médicale et finalement il a dû faire demi-tour et ils attendaient de vendre lui et puis d'avoir 60 millions pour Raphaël Leao que finalement ils ont vendu que 40.
Ouais. Raphaël Leao qui a pris la direction du Galatasaray Istanbul dans le championnat turc.
Voilà. Et du coup, ils avaient pas les sous pour faire Højbjerg. Voilà. Mmh. Et la Roma a pas les ronds. La Juve, elle n'a pas les ronds.
On reproche à Højbjerg justement de pas avoir cédé aux sirènes anglaises.
Oui.
Et d'avoir refusé justement ce transfert-là.
Voilà. Et là-dessus, dans les critiques que j'entendais moi dimanche dans les travées du Vélodrome, c'est sur le groupe de commercial anglais que McCourt avait mandaté.
Oui, c'est vrai que voilà, il y a une agence qui a été mandatée, c'est Unique Group.
Un truc anglais qui est spécialisé.
Voilà. Agence spécialisée pour.
Dans la vente de joueurs et qu'eux veulent faire du fric. Ils ont négocié le départ à Newcastle sans quasiment lui en parler. Ils lui ont donné le marché en main.
Ouais.
Alors, le salaire était le même qu'à l'OM. Newcastle, c'est quand même un gros club anglais. Mais le mec, il a pas aimé. Et puis, lui, il souhaitait l'Italie. Donc, il y a eu un clash.
Il avait une préférence pour l'Italie plutôt qu'un éventuel retour en Angleterre. Lui qui a déjà évolué
à Tottenham. Southampton.
Bon,
il s'est engueulé. Et cette agence, d'après ce que j'ai lu dans l'équipe et dans la Provence, cette agence, elle a joué un jeu qui était pas très bon, c'est-à-dire que tu as un directeur sportif qui négocie des trucs, tu négocies avec des agents de joueurs, et eux, c'est pas les mêmes, ils veulent leur part.
Merci
sur
de
le
reprendre
transfert.
La communication, on en revient là, voilà. C'est une base de tout.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a
et là, en expliquant ça pour nos auditeurs aussi, on peut évoquer le rôle que joue le nouveau directeur du football, Grégory Lorenzi, qui vient juste d'arriver au même titre que Bruno Genesio et Stéphane Richard dans l'encadrement du club.
Eux, les pauvres, ils prennent ça dans la gueule, mais Lorenzi, qui est un bon directeur sportif, à Brest.
C'est-à-dire qui a travaillé 10 ans au stade brestois.
Tu n'as pas d'argent, tu te débrouilles à sortir des mecs de Ligue 2, récupérer des mecs en fin de contrat.
Ce qui a été le cas pour lui.
Ce qui a été du bon boulot.
Mais là négocier le marché des transferts sur le stade brestois plutôt que l'OM, c'est pas tout à fait la même chose.
Ouais. Et lui, il a des réseaux intéressants, hein, c'est un mec compétent. Le problème, c'est que tu n'as pas l'autorisation de recruter. On sait qu'il avait des contacts avec des joueurs, puisque certains l'ont dit. Le dernier, ça a été Djibril Sidibé, l'ancien, le champion du monde 2018, qui finalement, ne voyant pas l'OM recruter, a signé au Mans. Parce que le mec, il attendait, il était libre, donc il coûtait zéro.
Ouais.
Il attendait un contrat, et tu le fais lambiner comme tu l'as fait avec
Djibril Sidibé, qui a gagné la Coupe du Monde en 2018,
oui, en 2018
qui faisait partie du groupe
et
France.
Tu as l'Algérien qui joue en Allemagne et qui a signé à Nice, Amoura.
Oui, Mohamed Amoura, qui est international algérien, qui était dans le groupe de Petkovic pour la Coupe du Monde.
Et lui, il attendait un signe de l'OM parce qu'il était intéressé par Marseille. Et il attendait. Puis
il évoluait en Allemagne à Wolfsburg, qui est descendu en deuxième division.
Voilà, donc lui, il voulait absolument partir. Et finalement, ben, comme tu peux pas le signer, ben, il est allé à Nice.
On n'a pas battu les cartes quand il le fallait. On avait la possibilité
L'erreur a peut-être été.
Mais bon, c'est important quand même de signaler pour les auditeurs la situation économique du club et pourquoi tout ce micmac autour des transferts avortés qui ont eu lieu durant cette intersaison.
L'erreur, ça a peut-être été de penser qu'on arrivera à vendre certains joueurs. Balerdi, ils en demandaient 30 millions et tout. Bon, c'était un peu...
Mais finalement, on s'aperçoit que la stratégie n'a pas été la bonne.
Et non, parce que tout le monde sait que tu es à la rue et qu'il faut que tu vendes. Donc, les mecs, ils ne vont pas te sortir les gros chèques.
Les négociations ne vont pas dans notre sens.
Les dirigeants des autres clubs, connaissant la situation économique de l'OM, forcément, ça...
Ils n'ont pas fait. Il y a même les Saoudiens qui ont proposé...
Oui.
Quelques jours de la fin du mercato, c'était marqué dans la Provence. Ils ont proposé 7 millions pour Naïef Aguerd, qui est estimé à 20
et quelques. Il me semble que le marché saoudien est encore ouvert,
jusqu'à dimanche. Et donc, tu te retrouves dans des situations où tu ne vas pas non plus vendre à perte. Je veux dire, tu es un peu... En plus, il faut que le joueur accepte. Et donc, tu t'es retrouvé que tu n'as pas pu vendre. Il était évident pour moi... que les retours de prêt, les joueurs que personne ne veut trop, qui ont des Mopé, il a 200 et quelques mille à l'OM. Il a un contrat, il va pas partir pour n'importe où. Tu lui dis, va là-bas, il y va pas. Le mec,
il me faut un club intéressant. Mopé qui fait partie de ces joueurs qui reviennent de prêt, qui étaient en Espagne du côté du AC Séville la saison dernière.
Et en plus, il a pas été mauvais, il a fait des matchs intéressants. Le problème, c'est que Séville n'a pas d'argent pareil. Séville, il fonctionne avec des prêts et des trucs comme ça.
Le AC Séville qui a réussi à se maintenir néanmoins en Liga.
À l'arrache, à la fin.
Ça a été laborieux, mais bon, ils y sont parvenus.
Du coup, il avait une option d'achat. Ils n'ont pas fait jouer, mais ils en avaient trois en prêt à option d'achat. Ils n'ont acheté personne, mais ils n'ont pas de rond. Et donc, tu te retrouves avec des gars qui sont là, qui ont des contrats, tu ne peux pas mettre dehors. Tu as eu l'intelligence, je pense, à ce que c'est Genesio, est-ce que c'est Lorenzi, est-ce que c'est Richard, est-ce que c'est les trois, de ne pas faire de l'offre en placardisant des mecs.
Comme ça avait été fait la saison dernière avec Roberto De Zerbi.
Voilà, avec où tu avais mis des gars au placard.
Je crois que Genesio a eu l'excellente attitude.
La gestion humaine, il connaît. Donc tu as mis tous les mecs, tu les as maintenus dans l'ambiance est bonne, et tu te retrouves avec des gars qui sont... Moi, dimanche soir, tu fais rentrer Moumbagna en fin de match. Moi, je veux bien, mais c'est un gentil garçon, c'est un mec combatif.
Et c'est vrai qu'en plus, Faris Moumbagna jouait en Italie. Bon, il a très, très peu joué du côté de Cremone. Et on parle d'un joueur qui avait déjà joué aussi quelques minutes, il me semble, à Monaco la semaine précédente.
La semaine d'avant, il était rentré.
Il a fait rentrer, il a mis une tête hors cadre qui était totalement immatérielle.
Mais bon, tu rentres, tu n'as pas de rythme, tu n'as pas joué. Tu es froid, en fait,
c'est
tu
relatif.
Viens de rentrer.
Mais c'est vrai que là, la gestion de...
Et tu as un ballon galère avec...
On n'avait pas beaucoup de choix à ce moment-là.
Sur ce que tu dis, Franck, qui est vrai, les défenseurs monégasques, eux, quand un mec est au duel de la tête pour essayer, ils le gênent pour pas qu'il puisse cadrer sa tête. Eux. Je dis eux parce que certains ne l'ont pas fait. Voilà.
C'est évident.
Les nôtres l'ont pas fait, d'aller gêner le mec, Et donc le mec, la tête n'est pas cadrée. Tu fais rentrer les joueurs. Le match de Monaco, j'étais devant la télé, enfin devant Ligue 1 Plus avec des amis, la famille. On regardait et puis comme l'équipe merdait, ça marchait pas, on était mené à la mi-temps. Un des copains qui était là, il a dit, il faut faire du 109, qui on va faire rentrer?
Quand on voyait la solution que Bruno Genesio avait sur le banc.
Voilà, t'as amené à faire rentrer des...
C'était compliqué d'envisager.
Voilà, tu fais rentrer des gamins de 19 ans qui ont 20 ans ou 19 ans. En l'occurrence, Abdallah et Mmadi. Qui ont 5 matchs, 6 matchs en pro.
Des joueurs totalement inexpérimentés, donc on ne peut pas leur demander de renverser des montagnes.
Voilà le souci supplémentaire concernant Nnadi, qui est blessé après le match de Monaco.
Qui s'est fait gravement blessé au genou.
Et là, il était question même de l'opérer rapidement. Il a refusé, ainsi que son agent, l'opération pour tenir le coup jusqu'à la reprise après les matchs internationaux ou avant.
Il ne jouera pas avant, parce que si c'est... Moi, sur ce que j'ai vu, Nnadi,
Oui, Toshuku Nadil, l'international nigérien qui est arrivé au club cet hiver. Hein.
C'est intéressant. C'est une torsion du genou. Ouais. Hein.
Il a quitté le terrain, je crois, au Stade Louis II, à un peu plus d'un quart d'heure de la fin.
Hein. Oui, il était rentré à la mi-temps, il s'est fait mal assez rapidement. Mmh. Il a tenu un quart d'heure, mais tu voyais que le mec, il souffrait et il est sorti. Et si c'est une torsion du genou, une entorse, même...
Apparemment, le staff médical a voulu établir un processus de rétablissement sans passer par la case opération. On envisage peut-être son retour lors du Classico le 20 septembre prochain pour la réception du PSG au Vélodrome. Ça me paraît vraiment très juste au niveau du délai parce que je ne suis pas médecin, mais connaissant un petit peu le diagnostic de la blessure, ça me paraît difficile de pouvoir...
Si on a envisagé une opération...
C'est que vraiment la blessure est peut-être plus grave que.
Si on a envisagé l'opération, c'est que c'était pas une petite torsion, c'est pas un coup.
C'est peut-être plus grave que prévu.
Et il a refusé l'opération, il va faire un truc comme d'autres l'avaient fait avant. Hein. Ouais. Il y en a même qui n'ont pas été opérés des croisés, ça se remet, mais c'est long. Mais
on peut éventuellement le revoir sur la pelouse de Troyes avant la prochaine trêve internationale.
Juste après.
Ça, c'est dans un mois, donc au niveau du délai, je ne sais pas si ça frappe un peu juste.
Moi, ça me paraît difficile parce que quand il y a un truc comme ça, c'est du repos qu'ils te font. Tu fais des soins, c'est-à-dire tu fais du kiné, tu fais des mouvements, tu fais des soins en piscine et tout. Et quand tu reviens, tu fais attention parce que si tu reprends trop tôt, tu pètes. Et là, c'est l'opération directe. Donc, je pense qu'on ne le fera pas reprendre avant un mois et demi, deux mois.
Là, c'est déjà un premier coup dur pour Bruno Genesio dans ce début de saison. En plus, avec un effectif très, très restreint, très limité.
Quels sont les points positifs à dégager en retour de prix, en l'occurrence? Mis à part
sur ce match du Paris FC, il y a quand même quelques joueurs qui ont réussi à donner une impression plutôt positive sur cette rencontre.
Moi j'ai vu.
On parle peut-être de Aminari qui était en prêt du côté de Başakşehir en Turquie.
Pour moi, c'est le seul digne de ce nom.
Pour moi, le seul joueur qui a été bon, c'est Gouiri.
Amin Gouiri,
parce qu'il met deux buts, mais aussi parce qu'il les rares occasions.
Amin Gouiri, on a failli perdre aussi.
Ah oui. C'est Como, le club italien de Como, le club de Cheikh Fabregas.
On sait qu'apparemment il y a beaucoup de clubs qui étaient sur les rangs. On parle de Como.
Un des rares clubs italiens qui est du fric.
Mais très bonne complicité. Avec Harit, il faut le souligner.
Mais Gouiri, c'est un bon joueur. Le problème, c'est que c'est un avant-centre que tu fais jouer en pointe. Alors, c'est un mec qui n'est pas très rapide et qui est plutôt un mec qui combine très fort techniquement.
C'est ce que nous attendons, justement.
Voilà. Et donc, il lui faut des équipiers pour jouer. Il s'entendait bien avec Greenwood, parce que Greenwood est un fin technicien.
Difficile de ne pas s'entendre avec lui.
Oui, et c'est vrai qu'il s'entend bien avec Harry,
technicien. On parle d'un joueur qui a très bien connu Bruno Genesio, qui a été lancé notamment au Stade Rennais, et qui a été blessé une bonne partie de la saison l'année dernière, puisqu'on se rappelle que... Il a quand même raté la Coupe d'Afrique des Nations en milieu de saison avec la sélection algérienne.
Parce qu'il était blessé. Et donc, c'est un très bon joueur.
Et là, il revient de la Coupe du Monde. Mais bon, visiblement, il a l'air d'avoir fait une bonne préparation. Et il est plutôt affûté en ce début de saison.
Plutôt affûté. Mais il y a Peck Shao qui revenait de blessure, qui n'a pas été très bon. Mais par contre,
un petit mot sur la situation d'Igor Pachao. On sait qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage autour de son cas. Vrai faux transfert du côté de l'Angleterre. On parlait de Sunderland.
Ne le perdons pas pour le mercato d'hiver.
Après, on sait qu'il y aura de nouveau une fenêtre de marché.
Après, Peck Shao, au mois de décembre, janvier, tu le vendais au prix où tu l'avais acheté. Pas trop l'intérêt. Et c'est vrai que c'est ton seul attaquant un peu frisson, puisque tu as perdu Greenwood, que tu n'as pas remplacé, et tu as perdu Aubameyang, qui est une perte énorme. Hein.
Aubameyang qui fait un très bon début de saison du côté de l'Espagne avec le Deportivo.
On peut le dire.
Cette équipe du Deportivo qui est cinquième et qui a gagné 3-2, notamment grâce à Pierre-Emerick Aubameyang le week-end dernier sur la pelouse du stade de la Céramique face à Villarreal, qui joue la Ligue des Champions cette saison.
Tu as perdu ces deux joueurs. C'est le seul joueur qui est rapide, qui est vif, qui joue la profondeur et qui crée des brèches. Et d'ailleurs, on l'a vu, Parce que si vous avez regardé les commentaires sur le match contre le PSG, vous avez appris qu'ils avaient beaucoup travaillé en regardant les images des matchs de préparation et des deux premières journées. Et ils avaient ciblé la difficulté dans la profondeur de notre défense. Et ils avaient ciblé, moi je suis au virage sud, donc aux
yeux. Du Paris FC.
Voilà, du Paris FC. Oui, pardon, Paris FC.
L'absus révélateur, oui. Puisque le PSG, on sait que ce sera le prochain adversaire de l'OM au CEPAC Vélodrome.
Et moi qui suis en virage, Peck Shaw, dès qu'il avait le ballon sur l'aile gauche, il avait trois mecs dessus. C'est-à-dire qu'il y avait son latéral, il y avait le milieu défensif qui revenait. Souvent Maxime, d'ailleurs Lopez, et il y avait l'ailier qui redescendait pour défendre.
Mais l'entraîneur monégasque l'a vu dès le second match.
Ah oui, oui, il a vu le Tefaï, et les mecs le savent. Et donc Peck Shaw, tu sais que.
Et on parle d'un joueur qui a fait une très bonne préparation.
Oui,
aussi,
oui, qui a fait une très, qui a été excellent.
Et qui est arrivé blessé la saison dernière et qui est le record en matière de transfert de l'OM.
Voilà. Et c'est un joueur qui est pas un grand dribbleur, mais qui est extrêmement rapide et très vif. Et donc,
je sais que c'est deux de ses principales qualités.
Voilà, il faut le prendre à deux ou trois. Et moi, j'ai vu que chaque fois, en première mi-temps, les Parisiens, ils le prenaient à deux, à trois. Ah. Ils coupaient, quoi.
Ça a été un match compliqué. Il y a eu juste un coup franc.
Oui,
de sa part.
Il a mis un magnifique coup franc sur la barre. Malheureusement. Voilà.
Qui n'a pas.
Maintenant, comment faire marquer des buts à cette équipe? L'animation sur les couloirs. Ouais. Est-ce qu'on va pas.
J'allais vous dire, il reste un quart d'heure dans l'émission. Ah, voilà. Quid de l'avenir avec.
Rapidement, Harit, va falloir trouver une solution. Va-t-on le garder sur un côté? Je ne crois pas. On va avoir besoin de.
Toi, Patrick, est-ce que tu penses que ça passe par un changement tactique de la part de Bruno Genesio? La position d'Amine Harit et de.
Il y a deux choses. Il y a l'idée qui est faite, le défendre à trois.
Ouais.
Trois actions. Mm-hmm. Et parce que tes défenseurs latéraux.
Mais on sait que Bruno Genesio, c'est pas tout à fait un adepte du système à trois défenseurs.
Mais il va être contraint.
Tes deux latéraux, que ce soit Emerson, Palmieri à gauche, ou que ce soit Timothy Weah à droite, sont d'excellents contre-attaquants. Mais
en espérant qu'on n'ait pas de blessés ou de suspendus pour les prochaines semaines et les prochains matchs.
Autant Emerson, tu as Ulysse Garcia, qui est pas extraordinaire, mais qui est un pro. Qui a un joueur expérimenté.
Ouais,
sinon, tu as Bezaf et Koum qui n'ont jamais joué en Ligue 1.
Il va falloir les essayer,
mais là, c'est des gamins. Et oui,
mais bon, là, si jamais on a un blessé ou un suspendu pour compenser ses absences.
On va être vraiment contraint.
Ce qu'il faut comprendre, c'est...
Ça va être difficile. Hein.
On en parlait dimanche, on disait on va jouer Beşiktaş après Rennes et avant Paris.
Un petit mot sur le calendrier. Avant la prochaine trêve, il y a un déplacement à Rennes vendredi. Donc
vendredi, on est à Rennes. Le jeudi, on joue
jeudi prochain,
Istanbul,
il y aura un déplacement
à Beşiktaş.
Et ensuite,
Beşiktaş qui a battu Fenerbahçe
le week-end dernier en Super League turque.
Voilà. Et le dimanche soir, tu reçois PSG, qui eux auront joué le mercredi, donc un jour avant en Coupe d'Europe, ce qui est un sacré avantage de récupération, qui ont l'habitude.
Et c'est vrai qu'en plus, le Beşiktaş, ce sera les retrouvailles avec Amir Mourinho, qui est parti l'hiver dernier, qui a fait un super recrutement avec Alexander Nübel, Leandro Trossard d'Arsenal, Dusan Vlahovic de la Juventus.
Deux super joueurs, parce que Vlahovic est un très bon joueur. Et
le nouvel entraîneur de cette équipe des Aigles Noirs du Beşiktaş, c'est Vincenzo Italiano, qui était sur le banc de Bologne en Serie A la saison dernière. Donc, bon entraîneur.
Très. Il les avait qualifiés en Ligue des Champions il y a deux ans.
Vincenzo Italiano qui a fait du très bon boulot en Serie A italienne.
Et donc, tu vas devoir choisir, parce que trois matchs comme ça en 10 jours, tu as à Rennes, à Beşiktaş et tu reçois PSG.
Deux déplacements et une réception.
Tu ne peux pas jouer avec les mêmes 11. Tu es obligé de faire tourner. À mon avis, Genesio, il fera tourner à Beşiktaş, parce que tu te dis que ça va être très dur de prendre des points là-bas, donc tu vas pas. Donc
tu penses qu'il va privilégier le championnat de la Ligue 1, donc il va en partie sacrifier la Coupe d'Europe et l'Europa League.
Tu as donné la réponse à nos interrogations, c'est
évident. Le problème que
c'est ce que la plupart des supporters pensent, hein, qu'on a très peu de profondeur de banc.
Comment peut-il en être autrement?
Le problème que tu as, c'est cette défaite contre Paris Football Club. Ouais. Si tu gagnes, et tu aurais pu gagner avec un peu de réussite et surtout moins d'erreurs défensives, parce que les trois buts sont pour ta défense.
Si le triplé n'a pas supplanté notre doublé.
Voilà. Si tu gagnes, tu as 6 points, ça va. Là, tu as 3 points. si tu perds à Rennes et que
tu... Et tu perds face au PSG, après 5 journées...
Et après, tu as la trêve de 3 semaines. Voilà. C'est-à-dire que tu as le feu.
Oui, il y a la trêve hivernale.
Et après la trêve, il y aura un déplacement du côté du stade de l'Aube à 3.
Oui, à 3. Après, tu vas à Angers, tu reçois le 1 avant 20. Je veux dire, tu as
Toulouse. Et après le match de 3, il y aura aussi la réception de l'Olympiakos au Vélodrome pour la deuxième journée d'Europa League.
Et donc, c'est compliqué.
Là, après, tu vas enchaîner un nombre de matchs quasiment tous les 3 jours, jeudi, dimanche, entre la Coupe d'Europe, l'Europa League et la Ligue 1.
Tous les 3 jours, et tu as des postes comme les arrières latéraux
on en avait conscience,
qui sont très offensifs, qui des postes clés, où tu n'as pas de remplaçant. Ouais. C'est-à-dire que tu risques de te retrouver à Beşiktaş avec Bezaaf arrière droit et Ulysse Garcia arrière gauche. Seulement les mecs seront frais pour jouer PSG le dimanche. Ça, voilà, tu vois.
Et donc,
il va devoir faire des choix.
League,
Il va devoir tenter, mais ça sera peut-être pas contre PSG, tenter des coups. On te dit Kamissoko, c'est un jeune, il a jamais joué. Enfin, il a fait 2 rentrées avec Habib Bey l'année dernière en fin de saison, un quart d'heure en fin de match.
Mais bon, je pense qu'aussi, Franck McCourt a fait venir Bruno Genesio un petit peu pour ça, parce qu'on a vu que lors de ses passages précédents, hein, que ce soit
à Lyon,
au Stade Rennais ou à Olosk, il fait quand même confiance à la jeunesse.
Il n'a pas hésité à envoyer Bouadi le jour de ses 17 ans contre le Real Madrid en Ligue des Champions.
Il a été conseillé parce que ce n'est pas de son initiative personnelle ce choix-là.
Ayoub Bouadi, 18 ans, qui a fait la Coupe du Monde avec le Maroc et qui a connu sa première titularisation hier soir en Ligue des Champions.
Et qui a été vendu 100 millions d'euros à Manchester City. Donc c'est bon. Le problème, c'est que tu lances pas des gamins contre le PSG au Vélodrome. C'est un match qui sera chaud et très difficile.
C'est sûr que ce n'est pas l'idéal pour les mettre dans le grand bain.
Hier soir, je regardais Virage Marseille sur BFM et il y avait le président de
L'AS Vivo Sauvagère. Omar Kedadouche.
Omar Kedadouche qui disait le PSG, ils vont venir au Vélodrome, te fais aucune illusion. Ils vont combattre comme rarement.
Connaissant un petit peu la mentalité de Luis Enrique,
ils vont être à fond. Ils vont pas te faire l'ombre d'un cadeau.
C'est une évidence.
Mais c'est vrai que le PSG, je fais une petite aparté, une petite parenthèse, mais ils ont eu un début de saison compliqué avec aucune victoire, cette défaite lors du Trophée des Champions à Bollard face au Racing Club de Lens.
Ça reste anecdotique.
Là, il y a un match de Ligue des Champions qui arrive contre Slovan Bratislava au Parc ce soir, et il y aura un déplacement au stade Francis Leblay dimanche pour cette équipe de Luis Enrique, juste avant de venir au Vélodrome. Donc, ils auront une grosse semaine pour préparer ce déplacement à Marseille.
C'est sûr.
Et je pense que, connaissant
ils seront à 1000%, même si physiquement, ils ne sont pas prêts.
La mentalité
J'ai vu le match contre Monaco, PSG Monaco.
Oui.
En seconde mi-temps, ils étaient bouillis, les mecs.
Mais ils devaient emporter ce match naturellement.
Mais le problème, c'est à la mi-temps, après, ils doivent mener 3-0.
Après, on parle d'une équipe avec énormément d'internationaux qui sont revenus très tard de la Coupe du Monde, donc le niveau de préparation est totalement différent, donc des états de forme complètement, des joueurs qui viennent d'arriver du marché des transferts.
Tu as énormément de joueurs qui reviennent à la Coupe du Monde, qui ne sont pas préparés, qui ont des préparations très courtes, qui ne sont pas en forme. Mais contre nous, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Kedadouche, ils vont être méchants, ils vont vouloir montrer. Et donc, toi, ton problème va être dans quelles circonstances tu fais rentrer des gamins. Parce que c'est vrai que dimanche soir, après la défaite, on en parlait hors antenne avec Thierry, disait le public a pas été féroce. Après une défaite, à un moment, il te fait pourrir. Parce que...
Mais là, je pense que
je pense que les gens sont lucides.
Ouais. Mais on peut quand même évoquer l'attitude et le sentiment de résignation qui règne au sein de ce Vélodrome,
le terme
dans les tribunes.
Est indubitable, résignation.
Voilà. Et parce que les gens y regardent, tu vois bien que
malheureusement, ça arrive relativement tôt puisque on est que à la 3e journée.
Ouais.
Et puis on est sur un deuxième match à domicile, sachant qu'on a gagné 4-0 le premier contre le Racing Club de Strasbourg.
Ça revient à la lucidité du public.
La lucidité, moi je sais qu'après le match contre Strasbourg 4-0, en partant avec les collègues, on descend, on va au métro,
on
discute. Non, même pas. Il y en a un qui a fait une blague, mais c'était une blague.
Ouais.
On joue le titre, c'était une plaisanterie, je crois.
On terminer le gars. On comprend la boutade.
Voilà, c'est une boutade. Mais tout le monde disait, tu marques sur le début de seconde mi-temps sur ta première attaque, il faut une faute de défense. Comme nous, là, le même que ce qu'on a pris, nous, le premier.
Le score est flatteur et la victoire est en trompe-l'œil. Mais bon.
Ils ont un rouge. À 1-0, ils ont un rouge. Ils prennent le second. Voilà.
Ce qui a donné le match.
Et à 2-0, tu as 11 contre 10. Ouais. Ils ont des contres où ils te mettent en danger, où tu trembles. Parce que tu te dis, si on en prend un, on va avoir le feu.
On n'aime pas voilà. Su concrétiser.
Donc, et tu marques à la 89 et à la 92, quoi.
Voilà, vraiment, les deux derniers donc, buts de Kélian Abdallah et Pierre-Emile Hojbjerg.
Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais contre PFC, alors tu peux gagner le match. Si tu fais pas trois fautes de défense colossales, moi j'ai regardé parce que j'en avais entendu parler sur les, ben c'est lundi soir Virage Marseille, Fabien Laurenti, l'ancien joueur de l'OM,
ouais, qui est consultant pour ici.
Alors il cognait sur Egan Riley qui a été mauvais et il disait attention, il est pas seul parce que si tu prends le second but, donc j'ai revu le second but du Paris Saint-Germain, du Paris Football du Paris Club, pardon, décidément, voilà. Effectivement.
Tu veux absolument que voilà. On parle du PSG alors que la rencontre n'a pas encore eu lieu. Mais bon. T'inquiète pas, dans 15 jours, on aura l'occasion d'y revenir sur ce match.
Il y a un centre sur une corner. Ouais. Le corner, il joue à deux. Le mec qui remet et le mec qui a frappé le corner, il centre en deuxième intention. Sinayoko qui marque. Ils sont trois Auxerrois pour le seul Egan Riley. Alors, il est battu de la tête, il est mangé, comme il avait été mangé à Monaco. Sauf qu'à Monaco, tu étais 3 sur 1-1 monégasque. Et le mec, il frappe et il
la
te
situation
la met,
était
voilà.
Différente.
Là, il est seul. Et c'est pas normal qu'il soit seul, alors que tu étais un surnom dans la surface. Le premier, c'est un truc que les cadets, ils font ça, tu les engueules pendant 3 jours.
Oui.
Et le penalty, bon, il va au contre, il a le bras complètement décollé, il contre la balle
il
de la main.
Il aurait pu s'abstenir de prendre son
oui, il aurait pu faire un peu plus vrai. Gaffe. Mais après, Egan Riley est fautif, c'est lui qui fait la main.
Ah ouais.
Mais attention, que c'est un ballon que Cornelius perd sur une relance.
Personne, c'est vrai qu'il y a eu la rentrée du défenseur canadien qui voilà. A été mauvaise.
Mais lui aussi, il revient de la Coupe du Monde, il n'a pas joué, il était question qu'il parte en Arabie Saoudite, on en a parlé à Sassuolo en Italie. Donc le mec,
et c'est vrai que l'année dernière, il a été prêté du côté des Glasgow Rangers en Écosse, mais il n'a pas énormément joué.
Il a été blessé, il a très peu joué. Donc le mec, il n'est pas en confiance, il rentre, il est froid, il tente une relance, il se fait contrer. Sur l'action, tu as l'impression que tout le monde regarde et que voilà. Et l'autre, c'est Moses Simon, le Nigérian du PFC, qui déborde et qui centre. Et Egan Riley, il va au contre, il touche du bras et il n'y a rien à dire, il y a péno. Hein.
Donc la réussite que nous avons obtenue face à Strasbourg, en l'occurrence,
on
ne
l'a pas
eue.
Alors que, et on a non seulement on a les deux buts, qui a marqué Guiri, on a la balle de le coup franc de Pechao sur la barre, et on a une action où Gomez. Je comprends pas Angel Gomez, il contre un ballon.
Tu n'es pas le seul.
Au pressing, on arrive à contrer un dégagement parisien. Il se retrouve à arriver lancé seul face au gardien.
Une hésitation coupable.
Et il veut
c'est
dribbler.
Vrai qu'il a eu une très très grosse occasion.
Voilà, énorme.
Qui aurait pu,
il veut crocheter alors qu'il faut frapper.
Et il fait le mauvais choix.
En plus, il est sur son bon pied droitier, il est sur son pied droit. Donc tu te dis, s'il a, il frappe, alors il frappe, il n'est pas obligé de marquer.
Une réussite qu'on n'a pas su provoquer, malheureusement.
Tu n'as pas su provoquer la réussite. Par contre, ce qui est une évidence, c'est si tu fais autant d'erreurs, parce qu'à Monaco, les deux buts, c'est ta défense. Au Vélodrome, au Paris Football Club, c'est les trois buts, c'est ta défense. Tu as un gardien qui n'est pas fautif sur les buts. Mais qui est pas du genre qui va te. Hier soir, je regardais.
Il est pas tout à fait rassurant, Geoffrey Delange.
Hier soir, je regardais.
Il est pas beaucoup aidé non plus.
Je regardais Real Inter hier soir sur un Ligue des Champions. Tu vois Thibaut Courtois, alors je te dis pas, c'est pas Thibaut Courtois, c'est pas le même prix, c'est pas
là
le même.
Oui, mais là on parle de peut-être le meilleur gardien européen à l'heure actuelle.
Ouais, peut-être du monde,
voilà. Mais quand on voit la prestation qu'il fait hier soir, je comprends pourquoi Rudy Garcia voulait absolument le rappeler en sélection belge.
Pour la Coupe du Monde, voilà.
Tu m'étonnes.
Et d'ailleurs, ils se font éliminer quand ils sortent.
Au moment où de sa blessure. Et
c'est
le gardien de United, Lanemans, qui.
Mais pour revenir à l'OM, Delange.
Vite fait, puisqu'il nous reste 2 minutes avant de rendre
l'antenne. C'est pas un mauvais gardien, mais c'est pas le mec qui va te rapporter des points. Ta défense, elle est friable.
L'avenir nous le dira. Pour l'instant, en l'occurrence, ce n'est pas le cas.
Alors, les discussions, c'est est-ce qu'on relance Bamo Meite, qui a fait une bonne saison à Lorient l'année dernière, sachant que Lorient, ce n'est pas le vélodrome.
Non, mais je pense que ce que tu dis est très, très intéressant.
Est-ce qu'on met De Gaucher, Cornelius, qui, avec le Canada, la Coupe du Monde, a fait une bonne Coupe du Monde? Pourquoi pas? Bon, De Gaucher, on sait que ce n'est pas terrible, mais il vaut mieux De Gaucher qui ne sont pas mauvais que des droitiers qui sont bidons.
Oh que oui.
Et on a un problème au milieu où on manque de créateurs. Voilà. Parce que...
Et donc là, à court terme, là, dans 48 heures, ce déplacement au Roazhon Park pour défier le Stade Rennais de Francaise, actuellement 5e de Ligue 1, avec 2 victoires et 1 match nul. Au niveau de la compo, pour Bruno Genesio et son staff,
si je peux, Harry,
allez très vite,
le
Franck, avant de rendre
au milieu terrain en tant que meneur de jeu. Et le Kélian, évidemment, le mettre sur le flanc droit pour provoquer et créer justement des occasions.
Oui, de la vivacité avec Kélian Abdallah. Ouais. Harry Tandis, parce que Gomez, Andis, il a...
Voilà.
C'est dommage parce que tu sens qu'il a quand même des qualités, mais Harit, au moins, il est capable de te sortir. Mmh. Il est irrégulier à Minarit, hein, mais il est capable de te sortir un geste, un truc comme ça. Il a fait un bon match contre Paris FC. Hein.
Il faut le souligner.
Il a fait un match correct. Hein.
Allez, rapide.
Et voilà. Et après, moi, je tenterai ma défense. Aguerd, il faut qu'il joue pour retrouver du rythme, donc tu es obligé. Mmh. Et j'essaierai soit Meite, mais sortir Egan Riley. En plus, il a été critiqué à Monaco, il est critiqué contre Paris. Ouais.
Ça fait 2 matchs qu'il passe au travers. Donc,
mentalement, c'est
voilà.
Très dur.
On l'aura compris.
Il va falloir l'essayer.
Voilà. Voilà, ben, on a terminé cette première émission de la saison. On va rendre l'antenne et on se retrouve la semaine prochaine. Et on reviendra sur ce déplacement Roazhon Park vendredi soir.
Voilà,
Stade Rennais, Olympique de Marseille à 20h45 ce vendredi. Et on parlera un petit peu aussi de la Coupe d'Europe juste avant ce déplacement à Istanbul face au Beşiktaş. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt sur les ondes de Fréquence Mistral.
Courage
allez,
à
au revoir
et
à tous.